José Moselli, La prison de glace, quatrième partie, La bagne d'Anouchkin. Une neige épaisse tombait. Les condamnés, grelottant sur leurs uniformes de bure en haillons, durent se placer en rang le long des murailles. Comme il ne se hâtait pas assez au gré des Cosaques, les coups de fouet plurent. Là, pendant des heures et des heures, les malheureux, immobiles et silencieux, durent attendre le bon plaisir des gardes chiourmes. Ce ne fut que vers midi que l'appel commença. Il fut fait par un sous-officier presque illettré et qui éplait les mots avec difficulté. Plusieurs fois, des condamnés, ne reconnaissant pas leur patronyme, ne répondirent pas tout de suite, et des coups de crosse assénés avec vigueur et générosité leur apprirent immédiatement à apporter plus d'attention aux paroles de leurs supérieurs. C'était d'ailleurs la dernière fois que les condamnés devaient entendre prononcer leur nom. Désormais, ils n'étaient plus que des numéros. Francis Drake devint le numéro 77. Étranger de voir de la mémoire, mes colombes, conclut la brute qui venait de faire appel. Le premier qui, à l'avenir, ne répondra pas immédiatement, je dis même immédiatement, à son numéro d'appel, sera gratifié de 100 coups de plaiderie pour commencer. Vous voilà averti. Jamblet, ferme-moi. Ferme-moi ces gentils hommes et n'aie pas peur de bien fermer les bouches. Ce sont des élégants, ils aiment les complets sur mesure. Sous la neige qui continuait à s'abattre du ciel gris, les condamnés, un à un, furent munis de leurs fers. Chacun à son tour, ils gagnèrent un angle de la cour où deux forçats forgerons attendaient auprès d'une enclume. Ainsi que ses compagnons de malheur, Francis Drake dut appuyer ses pieds l'un après l'autre sur l'enclume. On lui passa un carcan de fer à chaque cheville, lequel fut rivé à froid à une chaîne. Les deux chaînes furent ensuite réunies à une troisième, cadenassée, à la ceinture du condamné. C'était là le complet sur mesure dont avait parlé le sous-officier. Bien que les boucles fussent si étroites que le fer lui écorchait la chair, Francis Drake ne s'aperçut pas pour l'instant de ce qui lui advenait. Il cherchait Margaret. Depuis qu'il était dans cette cour glaciale, il n'avait cessé de fouiller des yeux la foule des condamnés. Mais en vain, Margaret n'était pas parmi eux. Ni Margaret, ni aucune autre femme. Mais où était-elle? Morte ou pie? Après les menaces de Chrysler, le malheureux homme appréhendait tout. À 6 heures du soir, alors que la nuit était venue depuis longtemps et que les forgerons travaillaient à la clarté de lanterne, au grand dommage des condamnés que les coups de marteau atteignaient fréquemment, le ferrement des forçats fut enfin achevé. Les misérables, qui n'avaient pas mangé de la journée, furent poussés dans une grande salle nue et reçurent l'ordre de s'étendre sur la couche de paille pourrie et pulvérisée jonchant les dalles. Francis Drake comprit cette nuit-là ce que c'est que de souffrir du froid, de la faim, de la fatigue et surtout de l'angoisse. Lorsque les premières clartés de l'aube pénétrèrent enfin dans cette géhenne, il sembla au financier qu'il était enfermé là depuis une éternité. Des soldats entrèrent et à grand renfort de grognements et de coups de crosse firent comprendre aux malheureux, réduits à l'état de bête, qu'il fallait se lever. Peu après, d'autres forçats appartenant à la section d'Alexandrovsk arrivèrent, portant des baquets remplis d'eau chaude à l'odeur nauséabonde et sur laquelle nageaient quelques croutons de pain bis. C'était là la soupe des condamnés, la balanda, une soupe qui n'est mangeable que par des hommes réduits au dernier degré de l'inanition. Francis Drake avait bien faim. Mais ayant porté à sa bouche la cuillère de bois qui venait de lui être jetée, il eut un haut-le-cœur si violent au contact de l'immonde mixture qu'il faillit vomir dans le baquet devant lequel, à l'exemple de ses compagnons, il s'était accroupi. Ses voisins ricanèrent ignoblement en voyant son dégoût, et l'un d'eux lui adressa une phrase qu'il ne comprit pas, mais dont il devina le sens insultant. Il s'écarta et alla s'asseoir dans un angle de la salle. Il resta là jusqu'à midi, heure à laquelle les Cosaques reparurent. Le moment du départ était arrivé. Comme la veille, les forçats allèrent se placer dans la cour, les pieds dans une couche de boue glacée, épaisse de 20 cm, et l'appel recommença. Francis Drake répondit en entendant le numéro 77. L'énoncé de ce nombre et le mot « présent » était tout ce qu'il savait de russe. L'appel terminé, les forçats furent rangés 4 par 4 et, encadrés par les Cosaques, franchirent le seuil de la sinistre prison, traversèrent la ville et avancèrent vers le nord. Francis Drake regretta presque de quitter sa prison. Tant qu'il y était resté, il avait conservé l'espoir de revoir sa fille ou au moins d'en avoir des nouvelles. Maintenant qu'il partait, tout était fini. Sans doute ne serait-il plus jamais ce qu'était devenu son enfant. Mais si grand que fût son désespoir, il parvint à le dominer. Dans l'excès de sa douleur, il retrouva entière l'énergie qui avait fait de lui un des magnats du Nouveau Monde. Que Margaret fût vivante ou non, il fallait vivre, vivre pour punir Chrysler. Et Drake résolut de vivre. Il était le seul forçat qui n'eut pas de bagages. Tous ses compagnons, sans exception, transportaient sur leur dos qui un sac, un ballot ou une petite caisse contenant leurs effets personnels et quelques souvenirs. L'administration russe est tolérante sous certains rapports. Elle laisse quelques menus objets aux forçats. Drake, lui, n'avait rien. Rien que son uniforme de bure déchiqueté et rapiécé et une couverture de coton qui lui avait été remise dans sa prison. Tout d'abord, il se trouva heureux de ne pas porter de fardeau. Le poids de ses chaînes, plusieurs kilos, lui suffisaient. Mais le soir, à l'étape, il eut conscience de son infériorité vis-à-vis de ses compagnons. Sous peine de mourir de faim, il dut cette fois avaler sa portion de balanda sous l'œil narquois de ses compagnons. Force lui fut ensuite de se coucher dans la boue glacée, formant le sol d'une isba en ruine, qui depuis des années servait de gîte aux troupes de forçats remontant vers le nord. Mais à quoi bon relater le voyage des misérables? Il fut semblable aux autres, de la misère, de la souffrance, du désespoir. Après 3 jours de marche à travers la taïga, la forêt marécageuse qui recouvre les 9/10 de l'île de Sakhaline, le lugubre convoi, ayant atteint le sommet d'une chaîne de collines, arriva devant un vaste enclos délimité par des pieux pointus taillés dans des troncs d'arbres et hauts de 4 mètres. Ces pieux se touchaient. Des liens de gros fils de fer les maintenaient, l'un contre l'autre, quoiqu'ils fussent déjà profondément enfoncés en terre. Cet enclos, c'était le bagne d'Anioutchkin, la prison des éprouvés, celle où l'envoyaient les forçats dangereux, les pires, ceux qui étaient condamnés sans condition, autrement dit à vie. Dès que les premiers Cosaques de l'escorte se furent arrêtés devant l'étroite porte percée dans la palissade, le son lugubre d'une cloche s'entendit. La porte s'ouvrit, la sentinelle en faction devant s'écarta. Un par un, les forçats franchirent le seuil de ce que l'écrivain Dostoïevski appelé avec raison la maison des morts. Et encore, désignait-il par là un bagne sibérien, alors que ceux de Sakhaline sont ou plutôt étaient encore plus atroces. Francis Drake, réduit au dernier degré de l'affaiblissement, ne se soutenait plus que par un miracle d'énergie. Son corps émacié flottait dans son uniforme de bure. Il marchait d'un pas saccadé, appliquant ce qui lui restait de force à ne pas tomber. Pendant tout le trajet, il n'avait pas échangé un mot avec ses compagnons, tous ou presque d'immondes assassins, rebuts des bagnes de la Sibérie et envoyés à Sakhaline pour y mourir. De véritables brutes. Il mangeait, marchait, chantait, accomplissait tous les actes de la vie avec une indifférence d'automate. Tout sentiment humain était mort en eux. Le misérable troupeau dut rester une heure durant aligné contre la palissade, en attendant que le commandant du bagne voulût bien prendre livraison de ses nouveaux pensionnaires. Dans la vaste cour que balayait un vent glacial, Drake put voir des forçats qui vaquaient. Ils disparaissaient par instants dans un bâtiment tout en longueur, et dont les fenêtres, placées à 3 mètres du sol comme des soupiraux d'écurie, étaient munies d'épaisses grilles de fer. Le dortoir du bagne. Ce jour-là était fête. Monsieur le commandant avait pour habitude d'accorder un jour de repos à ses forçats chaque fois que lui arrivaient de nouvelles recrues. Vers 11 heures du matin, il apparut dans la cour, suivi de son état-major, un groupe d'argousins aux mines sinistres. Derrière venaient 2 hommes vêtus de casaques rouges, le bourreau du bagne et son aide. Le commandant du pénitencier, Vladimir Grigoriev, ordonna aussitôt de faire l'appel. Lorsque fut terminée cette formalité, il adressa à ses ouailles un petit discours auquel Drake ne comprit rien, mais où il était question de knout, de plétis, de pendaison et autres chantillesses. Après quoi, les forçats furent menés dans leur demeure, une salle longue de 60 mètres et large de 6, un immense couloir, plutôt flanqué de chaque côté le long des murailles d'une soupente de bois, légèrement inclinée vers le centre et munie d'un épais rebord de chêne, pour que les condamnés, lorsqu'ils s'y attendaient pour dormir, n'en glissassent point. C'était là tout l'ameublement. Les forçats y étaient couchés et fumaient nonchalamment de courtes pipes de bois. D'autres, accroupis autour d'une couverture, jouaient aux cartes. Et avec quelles cartes ? Des morceaux de carton mangés au coin racorni, recouverts d'une si épaisse couche de crasse que les figures ne se distinguaient plus qu'à peine. Mais le plus grand nombre des habitants de la femme écurie se porta au-devant des nouveaux venus. Des groupes se formèrent. Des interrogations s'échangèrent cependant que les arrivants se choisissaient des places sur les soupentes. Les anciens se mirent en devoir de renseigner les nouveaux qui, de leur côté, leur donnèrent des nouvelles sur ce qui se passait dans Sibérie et aussi sur les exploits qui motivaient leur présence à Sakhalin. Drake, après avoir été plusieurs fois vainement interpellé, fut laissé de côté. Il ne parlait pas un mot de russe et ses manières ne plaisaient qu'à demi à ce ramassis d'assassins et de bandits. Le malheureux homme alla s'asseoir à l'extrémité d'une des soupentes, un endroit dédaigné de tous parce que le bois en était complètement pourri. Et jusqu'au dîner, il resta là, à songer. Il mangea sans mot dire sa ration de balanda, et s'étant enroulé dans sa couverture, s'étendit sur le bois moisi et essaya de dormir. Il ne le put. Dans l'immonde dortoir, c'était un sabbat infernal. Malgré le règlement, les forçats s'étaient procurés du vodka et festoyaient bruyamment. Les fonctionnaires, placés devant l'unique porte, faisaient semblant de ne pas entendre. Ils savaient trop bien qu'un coup de poignard est vite donné. Ils avaient l'habitude du bagne. Drake resta donc éveillé. À l'aube, il avala un bol de thé fade et sans sucre et sortit avec ses compagnons. Seulement, comme il prenait place dans le rang pour l'appel, un surveillant arriva en courant. « Numéro 77 !» dit-il. Une courte phrase accompagna cet appel. Drake comprit que l'homme lui ordonnait de le suivre. Il obéit, sous les regards curieux des forçats. À côté de son guide, il traversa la cour du bagne et pénétra dans une élégante maison de pierre en briques qui se dressait à l'extrémité de la palissade. Et, après avoir passé devant un fonctionnaire, il traversa une antichambre où ronflait un poêle de terre et enfin entra dans un bureau confortablement meublé. Le plancher était recouvert de fourrure ainsi que des murailles à double fenêtre. Dans la cheminée, des troncs d'arbres se consumaient avec une flamme joyeuse. Derrière un bureau, un homme en uniforme de chef de bataillon était assis, un cigare entre les dents. Vladimir Grigoriev, commandant militaire du band Anioushkin. Il leva les yeux à l'entrée de Francis Drake et considéra l'Américain de la tête aux pieds, sans dire un mot. Drake resta impassible. Au point où il en était, rien ne pouvait plus l'émouvoir. Arrêté à 3 mètres du bureau de l'officier, il attendit. « Vous prétendez américain et affirmez être le financier Francis Drake ?» fit enfin Grigoriev en excellent anglais. « Ce qui n'empêche pas que vous avez été pris en flagrant délit au moment où vous vous disposiez à faire sauter le palais de son Excellence, le lieutenant-gouverneur de Sakhaline, pour Sa Majesté le Tsar. » « Oui, oui, vous avez nié. J'ai sous les yeux les pièces de votre procès. J'ai pour habitude de me renseigner sur mes pensionnaires, et votre cas m'a paru étrange. J'aime la justice, moi. Sans la justice, impossible de faire quoi que ce soit dans ce monde. Dans ma modeste sphère, je m'efforce donc d'être juste. Mais enfin, vous avez tout nié au procès. Dites-moi la vérité, soyez certain que je m'efforcerai d'adoucir votre châtiment. Si vous le méritez, bien entendu. » Drake resta stupéfait. Il s'attendait à tout, sauf à cela. « Et ma fille aussi est ici ?» demanda-t-il, tremblant à la fois d'angoisse et d'espoir. « Ma fille, Margaret Drake !»